plan. Chapitre 1er. 9. Le cœur est la première chose à laquelle il faut attacher ses soins. Il faut s'y attacher de bonne heure et sans laisser au mal le temps de jeter de profondes racines. Or, pour le former, rien de plus efficace que le bon exemple et l'habitude de faire le bien. 10. Les préceptes ne font tout au plus qu'attiédir l'âme. L'exemple est plus puissant, il l'échauffe. L'exemple et l'habitude, filles de l'exemple, ont plus de force que tous les philosophes, avec tous leurs livres. Et la retraite à l'école, où s'acquiert cette heureuse habitude du bien, laquelle n'a pas de plus grand fléau que la dissipation. 11. De là, pour l'enfant, la nécessité de mener une vie retirée. 12. Une vie uniforme fortifie le corps, et dans un corps vigoureux, l'âme est vigoureuse. Elle opère et plus librement et plus sagement. 13. L'ordre n'est pas moins nécessaire. L'ordre seul ralentit la course rapide du temps. Avec l'ordre, on trouve du temps pour tout. Sans l'ordre, on n'en trouve jamais assez. Tout devient aisé pour qui est ami de l'ordre, et tout est difficile pour qui ne l'aime pas. 14. Une vie bien ordonnée est la sublime image de la nature, et telle doit être la vie que mènera l'enfant. L'ordre doit en régler tous les instants. Les heures du lever et du coucher seront réglées, les heures des repas également réglées, les heures de récréation réglées ainsi que les heures d'exercice. 15. L'habitude du travail nourrit l'âme et sert de contrepoison au vice. Un homme livré au travail passe des jours filés par l'innocence, et le sage emploi qu'il a fait de sa journée est comme le chevet où, le soir, il goûte le doux sommeil, récompense de son travail. 16. Ainsi, la plus grande partie de la journée sera consacrée au travail, et les travaux seront entrecoupés par les repas et par les récréations qui suivront les repas. 17. Les repas pris en particulier, chose qui se pratique dans plus d'une maison, offrent plusieurs avantages. La vie est plus frugale, la régularité plus grande et la durée moindre. 18. Les fautes échappées contre la bienséance, contre la langue, sont reprises plus librement. 19. Le gouverneur tout en mangeant racontera un trait d'histoire que l'élève répétera tout en mangeant, apprenant ainsi à narrer. 20. On pourrait même pratiquer plus ou moins ce qui en France se pratique à tous les repas, dans tous les collèges, qui est de faire quelques bonnes lectures. 21. Faut-il, pour le bien de l'élève, le priver quelquefois de quelques petites douceurs? Nulle considération étrangère ne vient y mettre empêchement. 22. De temps en temps, et à titre de récompense, la permission serait donnée de prendre place à la table des parents. 23. Les récréations ne sont proprement que des remèdes, et l'abus des remèdes est nuisible. L'objet unique des récréations est de délasser l'esprit, dont le ressort trop tendu pourrait perdre son élasticité. 24. La durée des récréations sera donc proportionnée aux besoins de l'esprit, et le choix en sera réglé selon ses mêmes besoins. 25. Les jeux plus propres à tendre l'esprit qu'à le délasser seront bannis par cette raison, et la préférence sera pour les exercices du corps, lesquels ne demandent que de l'adresse, sans avoir rien de dangereux. 26. Le volant, le billard, le palet, la paume, le jeu de boules, etc. seront permis, et les jeux de cartes, etc. interdits. Les jeux de dames ou d'échecs peuvent se permettre dans les jours de vacances. 27. L'histoire offre l'exemple d'un grand prince qui, fatigué des soins pénibles du gouvernement, allait se délasser dans son jardin qu'il cultivait lui-même. Rien n'empêche d'imiter un tel exemple, et au défaut d'un jardin, d'aller dans un cabinet d'histoire naturelle, dans quelque cabinet de physique ou dans des ateliers, passer quelques heures qui tourneront tout à la fois et au profit du corps et au profit de l'âme. C'est comme un cours de philosophie dont rien n'égale l'utilité, si ce n'est la facilité de le faire et l'agrément qui l'accompagne.
28.
Ce serait peu que tout cela, sans la précaution de n'environner l'enfant que de gens sages.
29.
L'enfant imite tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, et souvent un simple mot indiscrètement lâché peut devenir chez lui le germe d'un vice. Les domestiques, surtout, peuvent nuire beaucoup. Corrompus qu'ils sont, l'air que l'on respire au milieu d'eux porte l'infection dans l'âme, et le mal, sans que l'on s'en aperçoive, s'inocule auprès d'eux avec une facilité extrême.
30.
Cette pente qui nous porte au mal et la contagion du mauvais exemple impose à l'instituteur l'obligation de la plus scrupuleuse vigilance.
31.
Il doit veiller sans cesse, observer son élève dans tous les instants, pénétrer dans son cœur, en développer les plus petits replis, et en épier les plus secrets mouvements pour les diriger vers le bien. Action, parole, gestes, regards, il doit tout recueillir, tenir en particulier un compte exact de tout, pour, comme sur une base solide, asseoir un jugement vrai qui puisse le guider au besoin.
32.
Il doit connaître parfaitement la façon de sentir de son élève, sa façon de voir, pour modifier ensuite son plan au gré des circonstances, et l'adapter exactement au caractère de l'enfant et à la tournure de son esprit. C'est ainsi qu'un médecin prudent emploie telle méthode avec tel malade et telle autre avec telle autre.
33.
Discret, il doit tout voir et ne rien voir, tout entendre et ne rien entendre, apprécier tous ceux qui entourent l'enfant et le degré d'influence qu'ils peuvent avoir sur lui.
34.
La prudence doit sans cesse marcher à ses côtés. Habile à prévoir les obstacles, il faut qu'il ait le courage de les surmonter.
35.
Une tâche aussi délicate, aussi pénible, veut un homme d'un zèle à toute épreuve, un homme ennemi de la dissipation et des plaisirs, un homme qui, de bonne heure, ait fermé l'oreille à l'ambition, un homme aussi désintéressé que la probité le permet, qui, au mérite brillant de dire de belles choses, préfère le mérite obscur d'en faire de bonnes, un homme dont la modestie égale le désintéressement. Autrement, il ne pourrait que se déplaire dans son état, sa carrière n'étant celle ni des honneurs, ni de la fortune, ni des plaisirs.
36.
Plutôt fait pour diriger l'enseignement que pour enseigner lui-même, il doit être plutôt judicieux que savant. Le fil de la pratique lui est nécessaire. Il faut que par-devers lui, il ait l'avantage d'avoir pratiqué longtemps, d'avoir pratiqué avec succès, y ayant une infinité d'idées que la pratique seule peut donner.
37.
L'indulgence et la douceur doivent faire la base de son caractère, la rigueur n'étant propre qu'à faire des esclaves.
38.
Il faut que sa conduite soit une leçon parlante, et que sévère pour lui-même, il ne se permette jamais rien que son élève ne puisse imiter.
39.
Il doit se pénétrer souvent de cette belle pensée, qu'un instituteur est un homme qui, environné de passions, n'en doit, pour ainsi dire, avoir aucune, qui, placé entre l'État et les parents, acquitte envers le premier leur dette, dette, l'une d'elles des plus sacrées et dont l'État ne peut être frustré sans un vol manifeste. La vue de ses nobles devoirs enflammera son cœur et le soutiendra contre les assauts trop souvent victorieux de l'inconstance et du dégoût.
40.
Loin de se relâcher alors, il portera ses regards plus avant, et partout où, en fait d'éducation, il rencontrera quelques pratiques salutaires et nouvelles pour lui, il l'adoptera généreusement pour mieux vaincre les ennemis qu'il a en tête, je veux dire, l'ignorance de l'élève et ses passions déréglées. Les Romains, que le lecteur pardonne cette seconde citation, les Romains partout ailleurs si fiers, ne rougissaient point, quand ils trouvaient chez les peuples vaincus des usages préférables aux leurs de quitter ceux-ci pour adopter ceux-là.
41.
Après le choix de l'instituteur, celui qui demande le plus de soins est le choix des maîtres. et ce choix regarde l'instituteur que la connaissance qu'il a de son élève et son expérience dans l'art d'enseigner mettent plus à portée de cela. 42. Les maîtres doivent être suffisamment instruits. Il faut qu'ils enseignent avec douceur, qu'ils soient patients et honnêtes. 43. L'exactitude est une qualité essentielle et que l'on doit exiger d'eux. La dissipation naturelle aux enfants demande que l'on répète souvent les mêmes choses. Ce sont des malades auxquels il faut donner peu à chaque fois et souvent. 44. La capacité dans un maître ne suffit pas, si d'ailleurs il n'a pas ce que l'on appelle esprit de méthode. Rien n'est plus ordinaire que de voir des gens qui, quoique instruits, enseignent mal, parce qu'autre chose est de savoir pour soi, et autre chose de savoir pour les autres. De tels maîtres, donc, sont peu nécessaires ici. Ceux que l'on demande doivent enseigner méthodiquement, c'est-à-dire avec ordre, avec précision et avec clarté. 45. Ce n'est pas tout encore, et comme une méthode n'est bonne qu'autant qu'elle convient à l'enfant qu'il s'agit d'enseigner, il faut que les maîtres se prêtent avec docilité aux idées de l'instituteur, afin que leurs différentes méthodes puissent se concilier avec les vues de celui-ci, qui seul connaît l'ensemble et voit la place que chaque partie y occupe. C'est l'instituteur qui est l'architecte de l'édifice, et les maîtres ne font tous que concourir chacun à leur manière à l'exécution de son plan. 46. Les maîtres enseigneront sous l'inspection de l'instituteur, juge né de leur besogne. Ils s'observeront et s'abstiendront de causer mal à propos, de raconter les nouvelles du dehors et de consumer en bagatelles semblables un temps précieux. 47. Le choix d'un domestique est aussi une chose qui demande du discernement. Quelque vigilance qu'apporte l'instituteur, quelque assidu qu'il soit, il ne peut pas toujours être avec son élève, et c'est alors qu'un domestique peut influencer sur l'éducation par sa manière de se comporter. 48. Celui que l'on cherche ici ne doit être ni joueur, ni ivrogne, ni débauché. Il doit être doux, actif, laborieux et sédentaire, recevant peu de visites, encore moins de visites de la part de domestiques corrompus. 49. Il faut un homme intelligent, un homme sachant lire et écrire, que le gouverneur puisse occuper et qui, ayant moins de loisirs, soit moins exposé à la tentation de mal faire. 50. Si ce domestique sait quelque langue autre que celle du pays, cela n'en sera que mieux, surtout s'il la prononce bien. 51. Il faut qu'il dépende absolument de l'instituteur et que la dépendance soit d'autant plus étroite qu'étant près de l'élève, il a nécessairement plus d'influence sur lui. 52. Or, il en dépendra s'il est du choix de l'instituteur et s'il sait que celui-ci peut le garder ou le congédier, le punir ou le récompenser. 53. Le domestique ne doit servir personne autre que l'enfant et le gouverneur. Il doit se tenir auprès de l'enfant le plus assidûment qu'il se pourra, pour le soigner au besoin, pour observer tout, et rendre au gouverneur un fidèle compte de tout ce qu'il aura ou vu ou entendu, et qu'il importe au gouverneur de savoir, afin de régler sa conduite en conséquence. 54. Le changement de domestique peut porter préjudice, ce que l'on préviendra. Si le choix fait, on attache le domestique par des gages tels qu'ailleurs, il n'en trouve pas de meilleur. 55. On peut même, suivant que l'on sera plus ou moins content de lui, exciter son zèle par quelques petites récompenses données de loin en loin. 56. Les récompenses, sagement distribuées, ressemblent en quelque sorte à cette pluie d'or dont parle la fable. Elles pénètrent les cœurs et les dilatent. Les récompenses sont de puissants ressorts dans les gouvernements, et de tels ressorts ne sont pas moins nécessaires dans la main de l'instituteur, chargé de gouverner des hommes en petit, que dans celle du souverain, chargé de gouverner des hommes faits, s'il est permis de comparer de petites choses à de grandes. Les hommes faits ont le flambeau de la raison, qui les éclaire, et ce flambeau est un mobile de plus, lequel manque aux enfants et rend pour eux les récompenses plus nécessaires encore. 57. Ces récompenses seront le plus souvent des livres, afin qu'en piquant l'émulation, elles inspirent en même temps le goût salutaire de la lecture. 58. L'émulation, ce germe des grandes choses, est surtout attachée à l'éducation publique. L'éducation publique a de très grands avantages que n'a pas l'éducation privée. Et rien de plus sage que de réunir ces deux espèces d'éducation en associant à l'élève quelques enfants choisis et de la même force. On peut alors établir de petites marques de distinction, telles qu'un ruban ou une croix, qu'aura le droit de porter celui qui s'en sera rendu digne. 59. Les récompenses seront de deux sortes. Les unes, prix de la bonne conduite, seront les plus honorables. Les autres seront le fruit du travail. 60. Si les récompenses portent la volonté vers le bien, les punitions la détourneront du mal. Les récompenses et les punitions sont les deux pivots de la conduite des hommes. 61. Les récompenses, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du discernement, livrent à la paresse, et les punitions à la colère, quand ce n'est pas l'équité qui les inflige. 62. Les punitions sont des remèdes auxquels le trop fréquent usage ôte leur vertu. 63. Les punitions, pour être efficaces, doivent être analogues aux fautes. L'orgueil doit être puni par l'humiliation, la paresse par un surcroît de travail, la gourmandise par la privation d'un mets, etc. 64. Afin de rendre le disciple plus attentif et plus circonspect, on tiendra jour par jour un compte exact des fautes graves qu'il aura commises. 65. Les fautes contre la propreté ou l'exactitude, la docilité ou la politesse, seront marquées dans un livre. On marquera dans un autre les fautes qu'il aura faites en travaillant et dans un troisième celles qu'il aura faites en parlant, avec la correction à côté. 66. Ces espèces de journaux laissés sous ses yeux seront comme le miroir de ses fautes. 67. Ses cahiers seront corrigés en marge afin que les fautes soient plus visibles et la besogne de chaque jour numérotée. 68. Ses cahiers et ses journaux, soigneusement conservés, mettront les parents à portée de juger des progrès faits dans le bien et dans la science.